Bonjour, c'est Lucie Rondelet de formation rédactionweb.com. Je pars aujourd'hui à la rencontre de Camille. Camille est une ancienne élève de formation rédaction web. Elle était doctorante dans l'architecture et elle s'est totalement reconvertie. Elle nous raconte son histoire, son parcours et son quotidien aujourd'hui de rédactrice. Je vous laisse la découvrir, c'est tout de suite. Bonjour Camille, comment vas-tu?
Bah, ça va très bien et toi?
Ça va, merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour nous parler de ta reconversion professionnelle dans la rédaction web et peut-être plus, tu vas nous raconter. Est-ce que tu peux me parler de toi, de ton parcours, de tes envies, de ton rapport à l'écriture, à l'informatique, etc., s'il te plaît?
Alors bah à la base, moi je suis pas du tout littéraire. J'ai jamais vraiment aimé écrire ou quoi, donc ça m'est venu assez tard en fait. À la base, j'étais plutôt créative, donc j'aimais bien dessiner toutes les choses, création manuelle, etc. Donc du coup, dès le lycée, j'ai intégré à l'époque, ça s'appelait STIR appliqué. Donc du coup, on étudiait plutôt design produit, design d'espace, communication visuelle, etc. Donc dès le lycée, j'étais déjà axée vraiment plutôt créative. Après, j'ai continué, j'ai fait un BTS design d'espace. Que j'avais un peu dans l'idée, je voulais devenir décoratrice d'intérieur. Donc rien à voir, enfin, ça y a un peu rien avec ce que je fais maintenant, mais pas forcément. Donc je voulais faire décoratrice d'intérieur, donc j'ai fait ça en BTS Design Espace à Paris, dans une école à Paris. Et puis au final, au bout de 2 ans, je me suis dit, bah, je vais pas m'arrêter là-dessus. Donc j'ai continué après en école d'architecture. Donc j'ai fait une validation d'acquis, je suis rentrée en deuxième année d'architecture. J'ai continué, donc ça n'a pas forcément passé. La première année, j'ai redoublé, mais bon, j'ai continué. En master 1, j'ai pu partir au Japon. Donc j'ai fait un an d'échange au Japon, c'était génial.
Alors, t'es
Je
allée
suis
où?
allée à Kyoto. J'ai passé une année à Kyoto, c'était absolument génial, j'ai adoré. Après, j'ai visité, enfin j'ai pas mal voyagé dans le Japon, comme c'était une année un peu cool. Donc on pourra parler du Japon après si tu veux, je sais que toi
Avec
aussi tu
plaisir,
connais.
oui.
J'ai fait mon master là-bas, je suis revenue à Paris, j'ai fini mon master. Et puis en master 2, en fait, fallait écrire un mémoire de master. Donc en architecture, c'est pas vraiment le truc que les élèves d'habitude apprécient, puisqu'ils sont plus dans. Normalement, le truc principal, c'est le projet d'architecture, la création, bâtiment, dessiner, etc. Et en fait, moi, j'ai eu vraiment le coup de foudre pour rédiger mon master. C'était devenu ma grande passion. Donc, quand je suis rentrée du Japon, en quelques mois à peine, j'ai écrit tout mon mémoire et j'ai vraiment eu révélation en me disant, avant, je pensais que ça allait être impossible d'écrire 60 pages d'un mémoire. Ça me paraît complètement, enfin, impossible à surmonter, quoi. Et au final, une fois lancée dedans, j'ai absolument adoré ça.
T'as écrit sur
Donc,
quoi?
j'ai écrit sur, comme j'étais au Japon, du coup, donc j'ai profité de mon année quand j'étais à Kyoto, j'ai travaillé sur la représentation de la vie japonaise dans les dessins animés, et
Génial.
notamment sur Tokyo et la banlieue de Tokyo, et comment c'était représenté dans les dessins animés et dans les mangas, quoi. Donc, bon, j'étais passionnée par cette question, donc c'était génial, j'ai adoré, donc je me suis vraiment amusée à écrire mon mémoire, c'était top. Et donc après ça, je me suis dit, bah mince, peut-être que. Enfin, je sentais qu'il y avait un truc qui s'était déclenché en moi en me disant peut-être que voilà, ce serait peut-être ça mon truc, plus que la création de bâtiments. Donc j'en ai parlé à mes profs de master, enfin de mémoire, qui m'ont conseillé de faire un post-master spécialisé dans la recherche pour avoir une première idée, une première approche, quoi. Donc j'ai fait ça et ça a complètement conforté, ça m'a conforté dans mon idée que la recherche, c'était un truc qui m'attirait. Donc je me suis dit, bon bah vas-y, on va tenter, et puis peut-être que je continuerai en thèse après. Donc je fais cette année-là, je me dis, bah oui, génial. Donc je prépare mon sujet de thèse. Je postule pour une bourse pour partir au Japon. J'arrive à décrocher la bourse, donc je bosse comme une folle pour réussir à décrocher cette bourse. Et c'était un peu le tout au tout. C'était soit j'ai la bourse et je fais une thèse et je pars au Japon pour faire la thèse. Soit j'ai pas de bourse et je fais pas de thèse, quoi. C'était tout ou rien, quoi. J'ai eu la bourse, je suis partie au Japon, donc je suis retournée à Kyoto dans la même université, etc. Donc c'était cool, je connaissais déjà, c'était un peu retour au bercail, donc c'était cool. Donc j'ai passé 4 ans à Kyoto à faire ma thèse. Donc c'était super, j'ai adoré.
Sur
Sauf
quoi? J'adore les sujets.
là, c'était complètement. Alors, au début, je voulais continuer un peu sur l'idée de la représentation de la ville japonaise dans les dessins animés, etc. Malheureusement, ce n'était pas assez scientifique et j'aurais pas eu de. Enfin, je n'aurais pas été subventionnée pour faire une recherche là-dessus, parce que, enfin, voilà, il n'y avait pas assez d'enjeux actuels. Donc, j'ai travaillé sur la reconstruction de la côte du Tohoku après le séisme de 2011. Les architectes avaient réagi face à cette question, comment ils intervenaient, qu'est-ce qui était fait là-bas, plus au niveau de l'habitat, etc., au niveau de la reconstruction de l'habitat pour ce
Alors,
moment-là.
ils reconstruisent de l'habitat sur cette zone, mais elle n'est pas sinistrée, enfin, elle n'est pas radioactive.
Alors, bah, il y a la zone radioactive, bien sûr, on n'y accède plus, enfin, ça se réouvre progressivement, mais il y a quand même toute une partie de la côte en fait, qui a été ravagée par le tsunami et qui n'est pas du tout radioactive et sur laquelle il faut reconstruire en fait, des villes parce que tout a été dévasté. Donc, il faut reconstruire tout le. Il y a des fois, ils reconstruisent des trucs. Enfin, il faut vraiment reconstruire tout le paysage, quoi. Donc, et il faut que ce soit cette fois résistant au tsunami. Donc, il y a plein de trucs assez techniques, soit des murs anti-tsunami ou alors ils reconstruisent. Il faut surélever le terrain avant de reconstruire, etc. Donc ça prend des. C'est pas encore terminé les travaux, c'est absolument.
C'était Sendai, où il y avait 1 million d'habitants, je crois, ou je ne sais plus combien. Non?
Oui, après Sendai, comme c'est la plus grosse ville, ça a été un peu moins touché. Après, c'est plus en fait des petits. Il y a plein de petits villages de pêcheurs en fait qui sont le long de la côte, qui ont été complètement ravagés et dévastés, quoi. Et donc, en fait, il faut reloger ces gens-là. Donc, il faut reconstruire des quartiers. C'est souvent des personnes âgées. Donc, c'est un peu difficile de les relocaliser. Donc, ils essaient, les architectes et les urbanistes essaient de construire des nouveaux types d'habitats où ils font des espèces de quartiers avec des petits habitats pour reloger les gens, essayer de garder les communautés, etc. Mais c'est assez de passer d'un village rural à des habitats semi-collectifs. Hein, ça pose plein de questions. Donc il y a plein de projets et de recherches qui sont faites là-dessus. Donc j'ai un peu travaillé là-dessus.
D'accord, passionnant.
Mais sauf que bah, à la fin de la thèse, j'ai adoré. Hein, c'était génial mon sujet. Je me suis éclatée. Sauf que bah, l'après-thèse, bah, qu'est-ce que je fais après ça? Parce qu'en fait, trouver un poste d'enseignant-chercheur, c'est pas forcément évident. Donc du coup, je me suis dit, bah, non, le milieu de la recherche, c'est trop difficile, j'ai pas envie de sacrifier tout le reste juste pour ça. Donc j'ai un peu abandonné l'idée de trouver un poste et je cherchais à faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Mon copain était installé, lui, à Munich, donc on était en relation à longue distance. Moi, j'étais restée au Japon finir ma thèse, et lui avait du boulot à Munich. Donc, je savais, après la thèse, j'arrive à Munich, je ne parle pas allemand, et il faut que je trouve un boulot, quoi. Et je ne savais pas du tout quoi faire. Donc, au début, je cherchais un peu dans les agences d'architecture, décoration d'intérieur, revenir un peu à mes premiers amours. Et au final, j'ai fait une interview pour une start-up à Munich et en fait, je me suis dit, mais non, mais c'est pas du tout, ça correspond pas du tout et je ne me vois pas du tout là-dedans. Donc, j'étais un peu dubitative, bon, bah, qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi? Et à ce moment-là, quelqu'un m'a contacté sur LinkedIn pour écrire un article dans un magazine. Et je me suis dit, waouh, j'ai de la légitimité pour quelqu'un vient me chercher, moi. Alors, je ne pensais pas du tout que j'avais quelque chose à raconter ou que j'avais une certaine légitimité pour écrire sur un quelconque sujet. Donc là, que quelqu'un vienne me chercher et me demande d'écrire un article, je me suis dit, waouh, mais génial, peut-être que je pourrais faire ça, en fait. Ça peut être un métier. Donc, je commençais à chercher les annonces sur LinkedIn, rédacteur, pigiste, rédacteur web, etc. Et là, je voyais plein d'annonces, rédacteur web, SEO. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc SEO? Je comprenais pas, je connaissais pas du tout, j'étais pas du tout dans le digital et tout. Je savais pas du tout ce que c'était. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Il cherche plein de gens, il doit y avoir des jobs potentiels, etc. Donc je cherche, comme tout le monde, je pense, a fait, je cherche dans Google rédacteur web SEO et je tombe forcément sur ton site, sur tes vidéos, des trucs, etc. Et là, j'ai découvert un nouveau monde et je me suis dit, waouh, ouais, mais ça a l'air génial ce métier. Je sentais qu'il y avait un truc. C'était ma voie de secours, quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah, vas-y, on tente, quoi. Donc, juste après, j'ai soutenu ma thèse en janvier 2021. Et genre, je crois que dès le lendemain, j'ai acheté ta formation et j'ai commencé en janvier 2001 la formation en rédaction web SEO.
Donc, janvier 2021, donc ça veut dire que ça fait 1 an et demi que tu as commencé. Tu as pris quelle formule?
J'étais en formule liberté. Liberté, liberté, pas de pack accompagnement, rien du tout. J'ai fait tout à ma sauce, bonne élève, j'ai noté tout, j'ai fait tous les exercices, super appliquée, quoi.
T'as pris des notes,
Ah
t'as
ouais,
imprimé les petites
j'ai
fiches de révision.
noté mon carnet, je notais tout, je soulignais avec les couleurs, etc. Vraiment la bonne élève, quoi. Enfin, voilà, moi, je suis du milieu universitaire, donc toujours très appliquée. Je faisais toutes les leçons, j'ai tout fait comme était dit dans la formation. J'ai suivi tous les conseils, j'ai tout noté sur mon petit carnet et j'ai vraiment suivi tous les conseils que tu nous as donnés. Vraiment, j'ai tout appliqué.
Bravo. Et alors,
La routine, donc c'est clair.
t'as rendu ton portfolio?
Et j'ai rendu mon portfolio, j'ai fini la formation fin août et j'ai rendu mon portfolio dans la foulée en me disant comme ça c'est fait et
Ah
puis
oui, t'as
comme ça
révisé.
je le vois. Donc je me suis lancée en septembre 2021. J'ai commencé.
D'accord. Alors, qu'est-ce que ça a donné? T'en es où aujourd'hui? Donc, ça fait 9 mois.
Bah, j'ai des clients, donc je suis super contente. J'ai réussi au début, en fait, je savais que. Sachant mon parcours avec mon rapport avec l'architecture, la décoration d'intérieur, etc., je savais que ce que je voulais faire au niveau de la rédaction web SEO, il fallait que ça ait un rapport, quoi. Donc, je me suis dit tout de suite, je vais essayer de me spécialiser là-dedans. Et on verra si j'arrive à. Enfin, s'il y a des potentiels clients, quoi. Si ça intéresse quelqu'un, s'il y a une niche, voilà. Donc, j'essaie de me nicher tout de suite en me disant, je teste voilà, architecture, décoration d'intérieur, parce que c'était ça qui m'intéressait, quoi. Et tout de suite, j'ai réussi à avoir des clients
Dans ce domaine.
dans ce domaine-là. Donc, bah, du coup, j'étais super contente. Et bah, dès le début, en fait, j'ai beaucoup communiqué sur. J'ai pas du tout fait de prospection. Honnêtement, c'est le seul de tes conseils que j'ai pas suivi. Parce que la prospection, enfin, ça me convenait pas du tout, moi, qui suis très timide, d'envoyer des mails comme ça. J'avais tout préparé, hein. J'ai fait comme tu avais dit dans la formation. J'ai mon petit fichier Excel avec tous les sites à prospecter. J'avais préparé des emails et tout. Et en fait, je ne me sentais pas du tout à l'aise avec la prospection. Sachant qu'en parallèle, j'avais pris aussi la formation Social Media Management que tu avais avec Doris. Et en fait, bah, tous les conseils de la formation Social Media Management, je les ai appliqués à mon entreprise. Et du coup, j'ai créé comme ça une stratégie de communication que j'ai mis en place sur les réseaux. Et c'est ça, en fait, qui m'a attiré les clients à moi. Donc, j'ai eu des demandes. J'avais créé mon site internet en parallèle de la formation. C'était un peu mon labo comme ça pour tester tous les conseils qu'il y avait dans la formation. Donc j'avais déjà mon site internet et à partir de septembre, donc, j'ai commencé à communiquer sur les réseaux, un peu sur LinkedIn, Instagram et Facebook au début. Et maintenant, je me concentre plutôt sur Instagram parce que ça me correspond mieux et c'est aussi où ma clientèle est présente. Donc du coup,
Oui,
j'ai
parce que
plutôt
toi, dans
appelé.
l'architecture, c'est très visuel aussi, enfin.
Au début, j'avais testé un peu LinkedIn, mais moi, ça ne me convenait pas trop. Je ne savais pas trop comment communiquer là-dessus. Et je voyais bien que bah, mes clientes potentielles, ma clientèle cible, n'étaient pas trop actives sur LinkedIn, mais plutôt voilà, sur Instagram ou des réseaux un peu plus visuels, quoi. Donc, du coup, maintenant, je mets surtout sur Instagram et sur mon site internet pour avoir des clients, quoi.
Donc là, tu es toujours à Munich?
Oui, toujours à Munich, ouais.
Et à quoi ressemblent tes journées?
À quoi ressemblent mes journées? Alors moi je suis pas du tout du matin, donc je me lève assez tard et ça me convient très bien. Parce que j'ai lu par rapport à la chronobiologie, le rythme circadien, etc. Donc ça j'ai tout à fait appliqué tous ces conseils-là aussi, de se dire il faut suivre sa journée et à quel moment on est productif. Donc moi le matin je suis pas productive, donc ça sert à rien, je me lève tôt. Donc je prends mon temps le matin, mon
Pense
café,
que
mon
t'as
petit
pas d'enfant.
Parce que pour l'instant, j'ai pas d'enfant. J'en profite tant que j'ai pas d'enfant parce que je pense qu'à un moment, mon rythme va devoir changer. Je sais pas si je vais réussir à m'adapter. Donc pour l'instant, j'ai pas d'enfant. Donc j'ai la chance de pouvoir me lever tard. Donc je profite le matin un peu tranquille. Je fais des tâches un peu moins importantes de l'administratif, des mails, des trucs. Et je rédige surtout où je suis le plus productive en début d'après-midi, quoi. Donc
Ah ok.
14h,
Alors ça.
14h, 14h, 18h. Surtout après manger, c'est le moment où je suis le plus. Où je fais mes grosses plages de rédaction, je les fais plutôt en début d'après-midi. Donc de 14h à 16h, quoi, c'est le moment où je fais où je rédige mes articles de blog, mes trucs. C'est
Ça
ma
c'est.
phase où je suis la plus productive. Je sais que c'est assez rare parce que généralement les gens digèrent.
Mais oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est très étonnant. Tu manges pas beaucoup de
Bah
sucre, t'as
ouais.
pas le coup de barre.
Et bah non, pas du tout en fait. Par contre, si je me force à me lever tôt le matin. Et bien là, par contre, le matin, je suis au radar et je ne vais pas du tout être productive. Et l'après-midi, du coup, je vais être super fatiguée. Donc, je ne vais pas avoir ma phase de productivité en début d'après-midi. Si je me lève trop tôt, je vais pas être, ça ne va pas marcher, quoi.
Tu te couches tard ou c'est juste que tu dors beaucoup?
Je me couche tard. En fait, je dors très mal. J'ai des tendances un peu insomniaques. Et j'arrive pas à me. Il faut que je me couche tard, sinon je n'arrive pas à dormir. Donc je me couche rarement avant minuit, 1 heure. Et des fois, je n'arrive pas à dormir. Donc j'essaye de respecter aussi, de me dire, voilà, si je fais des insomnies et que je dors pas beaucoup, bah, je dors un peu plus le matin et je fais ma journée de travail plutôt sur l'après-midi, quoi.
D'accord, tu bois beaucoup de café?
Pas spécialement, non, c'est juste que je pense que... Mais depuis toujours, hein, j'ai toujours mal dormi, donc je me suis habituée à
T'as quel âge?
mon chronotype. J'ai 32 ans.
Moi, j'ai mal dormi jusqu'à mes 33 ans. Si ça peut te
Ah,
donner, aussi te redonner
pareil,
espoir.
c'est le mois de mars, j'espère que... Peut-être qu'au passage de 33 ans, je vais commencer à bien dormir, mais... J'ai tout essayé, hein, j'essaye de... Mais moi, après... Et si j'arrive à peu près à faire une journée en suivant mon rythme, j'arrive à peu près à dormir, mais bon, voilà, faut avoir une routine un peu, etc. Sinon...
Tu ne connaissais pas le SEO, tu m'as dit. Aujourd'hui, tu as compris. J'imagine que tu as bien compris, en principe. Au mieux, sinon tu n'aurais pas eu. T'aurais pas
Sinon,
pu.
j'aurais pas de clients et mes clients seraient pas satisfaits. Donc, ils ont l'air satisfaits en tout cas, donc normalement tout va bien.
Tu as envie de te spécialiser dans une branche de la rédaction web ou d'évoluer vers quelque chose? C'est bien, tu as fait ton site, ton labo, tu as fait social media. Est-ce que tu as envie encore. D'évoluer dans un sens ou d'évoluer dans la pratique de la rédaction web.
Alors pour les objectifs plutôt à long terme, je sais que j'aimerais bien essayer de me former aussi au web design. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Le côté visuel, en fait, c'est ça qui me manque un peu pour l'instant avec seulement la rédaction. C'est vrai que j'aime bien aussi, c'est pour ça que j'ai créé mon site et que j'aime bien créer des visuels pour Instagram, etc. Parce que j'aime bien la création visuelle aussi. Donc je pense que dans l'avenir, d'ici quelques années, peut-être l'année prochaine ou d'ici 2 ans, j'aimerais bien me former aussi. Au web design, surtout sur, bah, par exemple, créer des sites sur WordPress ou des choses comme ça, pour me permettre aussi de proposer à mes clients un peu des choses tout en un, de leur dire, voilà, il y a le site qui est créé sur WordPress et il y a le texte SEO qui va avec, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai des clients, comme c'est plutôt des clients, des petits entrepreneurs qui se tentent ou des choses comme ça, d'avoir bah, tout en un et d'avoir un seul intermédiaire plutôt que de demander à plusieurs personnes, surtout quand on ne connaît pas trop les métiers du monde digital. Donc j'aimerais bien, je pense, dans l'avenir, pouvoir développer ce genre de prestations pour mes clients. Donc peut-être le web design, c'est un truc qui m'intéresserait
Oui, c'est
pour
un
la
web
suite.
design, création de site WordPress, ça c'est assez facile. Et rédaction, après tu peux proposer un site clé en main avec le contenu
Ouais,
inclus.
voilà, exactement,
Une
c'est
page
ça
tout. Ouais.
ce que j'aimerais proposer à l'avenir. Mais déjà, je me forme sur plein de... Là, en ce moment, je suis en train d'apprendre comment utiliser Notion pour être plus productive. J'ai fait aussi des formations pour comprendre un peu l'affiliation. Donc, essayer de faire un peu d'affiliation. Voilà, je continue, j'adore apprendre, donc j'essaie de continuer un peu à me former sur plein d'autres sujets qui viennent nourrir aussi la rédaction web SEO en marketing, en communication, tous ces trucs un peu connexes au monde digital, quoi.
Tu continues à te renseigner et à aimer tout ce qui a trait à l'architecture?
Oui. Après, je reste toujours, je suis un peu toujours les newsletters, etc. Mais un peu moins qu'avant, je pense. J'ai moins. Avant, j'adorais les magazines d'architecture, donc j'allais toujours dans les librairies, regarder les magazines, regarder les dernières nouveautés, les nouveaux bâtiments, etc. Après, sur les réseaux sociaux, je suis toujours un peu les dernières, enfin les architectes, ce qui se passe. Et puis, j'ai des clients aussi qui sont architectes, donc j'ai toujours un lien plutôt avec les réseaux sociaux. J'arrive toujours à suivre un peu. Ce qui se passe aussi côté architecture.
Et t'as pas envie d'écrire un livre, puisque tu aimes tant écrire et que tu t'es tant régalé avec ton mémoire et ta
Alors,
thèse.
oui, je me suis posé la question parce que c'est vrai que quand on finit la thèse, des fois, enfin, il y a plein de chercheurs qui transforment cette thèse en bouquin parce que ça peut être intéressant. Je me dis peut-être qu'un jour, je reprendrai ma thèse et j'en ferai un livre. Ça pourrait être super intéressant. Et en même temps, je crois que pour l'instant, j'ai un peu envie de la laisser de côté et de ne pas forcément la rouvrir tout de suite. Donc, on verra peut-être à l'avenir si je trouve un sujet. Bah, soit c'est mon sujet de thèse, après, si je trouve un autre sujet qui me passionne. Mais pour l'instant, ce n'est pas ma priorité d'écrire un livre. Ça me paraît encore quelque chose d'inaccessible. Mais...
L'évolution de l'habitat au Japon avec justement tout ce qui est en papier, bois, parce qu'ils sont habitués aux typhons, aux tsunamis, aux tremblements de terre. Bon, ça a peut-être déjà été fait, mais en tout cas.
Ouais, après, c'est que ça a déjà été fait. Il y a déjà des gens brillants qui ont écrit plein de livres super intéressants. Du coup, je ne sais pas trop ce que je pourrais ajouter de plus à ce qui a déjà été fait, quoi. Donc, tant que je n'ai pas trouvé un angle ou quelque chose d'un peu plus.
Une saga romanesque de type Les Piliers de la Terre, mais au Japon, avec l'évolution de
Ah, par
l'architecture.
contre, l'écriture comme ça, plus romanesque, vraiment roman, etc., ça, je pense que par contre, c'est pas du tout mon. Ce serait pas du tout mon truc. Il faudrait que
Alors,
ça reste en rapport avec la recherche, quelque chose de vraiment objectif, quoi, un truc un peu plus scientifique.
justement, qu'est-ce que tu lis?
Bah, je lis un peu de choses différentes. Je lis des trucs par rapport au, bah, plus par rapport au business ou à la rédaction web, des trucs un peu mindset, entrepreneur ou des choses comme ça. Après, je lis aussi des trucs un peu plus scientifiques sur des sujets divers, des trucs sur l'architecture aussi. Et après, des romans, plus quand j'ai envie de me détendre, quoi, je lis juste des romans, des policiers ou des trucs comme ça, quoi.
Justement, toi qui es donc doctorante, qui revient dans le milieu, enfin qui découvre ce milieu des entrepreneurs du web et tout. Moi, j'y baigne depuis plus de 10 ans et je sais qu'il y en a à prendre et à laisser. Toi qui fais de la recherche, qui sais chercher des sources fiables et prendre du recul vraiment sur ce qui est dit, quand tu vois toute cette mode du développement personnel un petit peu superficielle à mon sens, etc., qu'est-ce que tu en penses? Ça va? C'est quelque chose qui t'attire et ou bien tu vois directement où sont les charlatans, où sont les gens sérieux?
Ah oui, je pense que je vais. Je suis pas après une grosse fan non plus du développement personnel, donc je lis pas forcément ce type de. Je pense que je fais le tri un peu directement.
Quand tu parles d'entrepreneur, tu suis qui, par exemple? T'as lu quoi?
Alors là, en ce moment, je viens de finir le livre Tout est possible de Marie Forléo. Forléo, c'est ça, oui. Voilà, elle dit des choses assez intéressantes. Après, je trouvais que c'était pas forcément. Enfin, il n'y avait rien de et vraiment très nouveau. Après, la façon dont elle l'explique, je trouvais que c'était très bien. Enfin, c'était très bien expliqué, très bien vulgarisé, etc. Mais après, je me suis dit, ah bah oui. Enfin, ça paraissait évident tout ce qu'elle disait. Mais après, le livre est vraiment bien expliqué, c'est très facile à lire, etc. Donc, j'ai bien aimé. Et de
D'accord, elle
dire que
parle.
faut être. Ben, en gros, elle explique que tout est possible et que il faut avoir un peu de. Pas de la conviction, mais voilà, faut pas se laisser démotiver et faut trouver des solutions. Donc faut, entre guillemets, découper des gros objectifs qui paraissent inatteignables, il faut les découper en petites tâches atteignables et comme ça on voit l'évolution et ça nous permet, voilà, y aller un peu pas à pas et pouvoir aller jusqu'à ces objectifs et de pas se laisser décourager en fait.
Toi, tu avais besoin de ça pour avancer ou non, puisque tu l'as lu après et t'être
Non, non,
reconnu.
je l'ai lu après. Là, je l'ai lu maintenant parce que je le voyais partout. Je me suis dit, tiens, bah, par curiosité, en fait, je vais le lire. Peut-être que ça va m'intéresser. Donc, non, non, je l'ai lu vraiment par curiosité. Après, je me dis pas du tout. J'ai pas spécialement. Je me dis pas, tiens, j'ai besoin de ça pour avancer. Ou je l'ai lu vraiment par curiosité. Après, j'applique pas forcément les conseils qu'il donne parce que je me dis, bah, en fait, je le fais déjà. Donc, enfin, après, c'est des choses qui me disent, ah bah oui, bah ça, c'est vrai, je le fais, sans m'en rendre compte, en fait. Et après, on se dit, ah oui, c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire des choses comme ça. Je le lis vraiment par curiosité. Après, parce que j'aime lire et le soir dans mon lit, je lis toujours des bouquins, au moins pendant 1 heure avant de dormir. Donc, vraiment plus par curiosité pour me faire mon idée sur s'ils ont des choses intéressantes à dire, quoi.
Tes parents, enfin, t'as grandi dans quel type de famille, pour avoir cette curiosité, pour cette adaptabilité? Voilà, j'essaie de voir un petit peu les différents
Ouais,
côtés.
non, c'est vrai. Bah, en fait, alors, très honnêtement, quand j'ai commencé, donc j'étais déjà toujours très, très créative, et je pense que ça me vient aussi de. Ma mère aussi est très créative, ma grand-mère aussi était un peu artiste. Donc, ils étaient très ouverts par rapport à ça, ils m'ont vachement encouragée à faire des choses créatives et à faire un peu ce que j'avais envie de faire. Donc, du coup, c'est grâce à ma mère que j'ai pu intégrer au lycée. Dès le lycée, en fait, c'est elle qui a cherché des voies possibles pour voyant que j'avais besoin de cette créativité, d'apprendre, d'être ce lien avec l'art, quoi. Donc, c'est elle qui a trouvé cette section-là et qui m'a poussée à m'inscrire. En fait, sinon, j'aurais fait, je sais pas, un bac S, un truc, un parcours totalement classique. Donc, c'est vraiment elle qui m'a encouragée à suivre cette voie créative. Et depuis, ils ont toujours été super, bah, super ouverts sur toutes les choses que m'ont toujours encouragée, quoi. Donc, c'est vrai qu'au début, quand on dit, je pars faire une thèse au Japon, bah forcément, c'est un peu. Surtout une thèse en architecture, enfin, les gens ne savent pas du tout ce qu'on fait, quoi. Ça reste un truc absolument obscur pour la plupart des gens. Donc, même s'ils ne savent pas, au bout d'un moment, en fait, ils ne comprenaient pas vraiment ce que je faisais. Pareil pour la rédaction SEO, quand je
Oui.
leur ai dit, voilà, j'ai
Je crois que
fini
c'est
ma
plus.
thèse, j'ai un doctorat, je me lance en freelance, je fais de la rédaction web SEO. Bon, bah, c'est vrai que du coup, au début, c'est un peu délicat à expliquer, mais ils ont toujours été super ouverts et vraiment super. Ils m'ont toujours encouragée. Donc, ils s'inquiètent, au début, ils s'inquiètent un peu de se dire, oh là là, elle se lance en freelance, financièrement, est-ce que ça va aller, etc. Mais toujours ouverts sur tout ce que je leur ai proposé, quoi. Même le doctorat, ils m'ont toujours encouragée. Donc, de voir qu'on est épanoui dans ce qu'on fait. Je pense que ça, pour des parents, c'est aussi ce qui est le plus important, quoi. Une fois passé le souci un peu financièrement, est-ce que ça va aller? Une fois qu'ils ont compris que c'est bon financièrement et qu'on s'épanouit dans ce qu'on fait, là, je pense que eux, c'est bon, ils sont contents et soulagés, quoi. Donc, à partir de ce moment-là.
Et pourquoi tu avais choisi le Japon la première fois?
Et ben, en fait, j'avais toujours eu un truc pour le Japon depuis le lycée. En fait, dès toute petite, j'étais toujours attirée par les cultures un peu hors de
Asiatique?
l'eau, asiatiques. Au début, l'Inde, quand j'étais petite, je sais pas, j'étais fascinée par l'Inde, la Chine, voilà, tout le côté asiatique, comme ça me fascinait. Et au lycée, ça s'est un peu fixé sur le Japon, parce que j'avais une copine qui était aussi à fond Japon, qui me prêtait tous ses mangas, etc. Donc j'ai été un peu baignée là-dedans. Et après, avec l'architecture, bah, l'architecture japonaise est tellement fascinante en fait, que ça a un peu renforcé aussi mon attrait de me dire j'ai envie de voir ce qui se passe là-bas, quoi, parce que la culture c'est complètement différent et niveau architecture, je pense qu'on a vraiment plein de choses à apprendre. Donc, quand j'ai su que mon école d'architecture avait plein de partenariats au Japon, je me suis dit bah, vas-y, go, on postule et on y va, quoi.
Anata wa Nihongo ga hanasemasu ka?
Ah, hanasemasu.
Oh,
Et
sugoi!
en fait, mon copain est japonais, donc du coup, à la maison, on parle tous les jours japonais.
Oh,
Donc,
génial!
je pratique au quotidien tous les jours. Donc, je ne perds pas mon japonais, même si j'habite à Munich. Je parle mieux japonais qu'allemand.
D'accord. Tu l'as rencontré là-bas?
Oui, je l'ai rencontré en fait la première fois que je suis partie. On était amis, et quand je suis retournée la deuxième fois, c'est devenu plus qu'amis.
D'accord. Bon, j'aurais plein de questions à te poser sur la vie avec un Japonais parce que pour avoir vécu au Japon, je me pose beaucoup de questions culturelles. Mais d'ailleurs,
Vraiment.
je recommande un excellent livre qui s'appelle Les Japonais.
Ah oui, il est très bien ce livre.
Toi,
On
t'as
reprend.
pas hésité longtemps avant de te reconvertir dans la rédaction web. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais partager par rapport à ton métier, ta reconversion, ton expérience personnelle?
Bah, s'il y a d'autres doctorants ou jeunes docteurs. Ça m'arrive récemment de discuter du coup de la rédaction web avec ce genre de profil un peu comme moi qui vient du monde universitaire et qui se pose un peu la question bah, qu'est-ce qu'on fait après la thèse? Donc de dire à ces gens-là que c'est possible de faire de la rédaction web SEO. Et surtout, moi, je retrouve plein de choses que j'ai adorées dans le doctorat et dans la recherche, que je retrouve maintenant dans la rédaction web SEO. Donc déjà, ne serait-ce que de faire un doctorat, bah, en fait, on est déjà en fait, des entrepreneurs parce qu'on fait tout seul, on a cette liberté de choisir sur quoi on travaille, de quand est-ce qu'on travaille, de vraiment, on est le capitaine de son navire quand on fait un doctorat. Et ça, bah, en fait, dans l'entrepreneuriat, on se retrouve complètement et on est déjà à l'aise parce qu'en fait, on a déjà cette expérience précédente. Et la rédaction web SEO, il y a aussi toute cette partie que j'adorais moi dans le doctorat, de recherche en fait, de rechercher les sources, de combiner des informations, de synthétiser. Donc toute cette partie avant la rédaction, mais toute la partie recherche d'informations, synthétiser, émettre des hypothèses, etc. Tout ça, on le retrouve aussi dans la rédaction web SEO. Donc si jamais il y a des profils similaires, peut-être que la rédaction web SEO fera votre bonheur comme elle fait le mien.
Merci pour ce partage d'expérience, Camille. Merci d'être venue sur ce podcast et je te souhaite une très belle continuation.
Merci, bah, merci à toi et à toute l'équipe, parce que c'est un peu grâce à vous qu'on est tous là aujourd'hui. Donc merci à vous.